Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Le rapprochement entre Cuba et les États-Unis confirmé par la libération de 53 prisonniers politiques par la Havane, une étape importante de la promesse faite par Raúl Castro aux Américains à quelques jours de l'arrivée attendue à la Havane de Roberta Jacobson, secrétaire d'État adjointe pour l'Amérique latine, pour des discussions devant porter sur les questions de migration et la pleine restauration des relations diplomatiques entre les deux pays. Regard sur cette nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre en Amérique latine. Certains évoquent le grand retour de Washington dans la région. Est-ce le cas? Après des années d'éloignement, la question de l'embargo reste posée, mais des verrous sont bel et bien en train de sauter et un grand jeu se met en place qui pourrait changer la vie de nombreux latino-américains. Nos invités, Jeannette Abel, politologue, spécialiste de Cuba et plus largement de l'Amérique latine, bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, bonjour.
Bonjour.
Le département d'État américain donc annonçait cette semaine que le gouvernement cubain avait notifié aux États-Unis avoir bouclé la remise en liberté des 53 prisonniers politiques qu'il s'était engagé à libérer. Ces libérations surviennent 3 semaines après l'annonce historique par les présidents américains et cubains Barack Obama et Raúl Castro d'une amorce de dégel. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle et Washington impose un embargo commercial à Cuba. Est-ce qu'il faut y voir, Jeannette Abel, Stéphane Witkowski, le signe que le gouvernement cubain est sérieusement engagé dans la normalisation de ses relations avec les États-Unis? Jeannette Abel.
Oui, tout à fait. Il est très sérieusement engagé, et cela depuis maintenant plus que 18 mois. On a dit 18 mois, non, c'est depuis plus longtemps que cela. Engagé non seulement vers le rétablissement de relations diplomatiques normales, mais aussi de négociations sur le règlement du contentieux historique qui dure depuis un demi-siècle entre les États-Unis et Cuba, l'embargo, mais aussi le fait que Cuba figure sur la liste des États terroristes. C'est aussi, évidemment, partie de la négociation. Guantanamo, mais ce sera sûrement cela pour plus tard. Le contentieux sur les propriétés américaines qui n'ont pas été indemnisées après la Révolution. Le contentieux implique aussi une coopération contre le trafic de drogue, et cette coopération a déjà lieu, notamment dans les Caraïbes. Et enfin, tout ce qui concerne les voyages, les migrations, la loi pied sec, pied mouillé, on l'appelle comme ça, on expliquera peut-être ce que ça veut dire, qui permet en fait aux Cubains qui mettent le pied sur le territoire américain d'avoir droit à une citoyenneté, alors que s'ils ne parviennent pas à atteindre le sol américain, ils ne peuvent pas l'avoir. Les crédits ou pas les crédits pour les importations, Internet, tout ça est dans la corbeille et dans la discussion.
Alors, dans la corbeille et dans la discussion, est-ce qu'on peut imaginer, je me tourne vers vous, Stéphane Witkowski, que justement, les premiers entretiens officiels bilatéraux qui auront lieu donc les 21 et 22 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine à La Havane, pilotés donc côté américain, je le disais en introduction, par la secrétaire d'État adjointe pour l'Amérique latine, Roberta Jacobson. Voilà, est-ce que tout cela va déjà être dans la corbeille des pourparlers, des discussions? Stéphane Witkowski.
Oui, c'est déjà dans la corbeille, je dirais, depuis plus de 2 ans, en réalité. C'est-à-dire que, vous savez, depuis maintenant 5-6 ans, il y a des groupes de travail qui se réunissent régulièrement entre Cuba et les États-Unis sur un certain nombre de sujets. Coopération policière, coopération migratoire, coopération postale. Un certain nombre de sujets aussi préparant l'ouverture, la grande levée de l'embargo à terme, un jour. Et depuis quelques années, les grands opérateurs touristiques du monde entier, notamment nord-américains, avec les autorités cubaines, avaient déjà engagé des négociations. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2014, il y a une accélération, ça a été une année charnière et symboliquement extrêmement importante. Au mois de janvier, il y a eu ce grand sommet CELAC diplomatique qui a été un grand succès de Raúl Castro, réunissant 30 des 33 chefs d'État d'Amérique latine. En février, une relance des négociations entre l'Union européenne et Cuba pour établir un accord cadre de coopération entre les deux entités. Il y a eu, symbolisé aussi par la visite bien sûr de Laurent Fabius à Cuba, la loi sur les investissements étrangers, qui a été aussi un acte politique très important de la part des autorités cubaines. Et il y a 2 visites qui, à mon avis, symboliquement, plus que symboliquement, des visites diplomatiques essentielles ont été la visite du président chinois et le président Poutine l'été dernier, au cours duquel, d'une part, pour la Chine, la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de Cuba, et Poutine, ayant annulé 90% de la dette cubaine vis-à-vis de l'ex-Union soviétique, avec un certain nombre d'accords essentiels sur les questions stratégiques, énergétiques, pétroliers, la construction d'un aéroport à La Havane, entre autres. Et à partir de là, l'administration Obama a pris conscience qu'il se passait quelque chose à Cuba, que tout, je dirais, le rapprochement de l'administration américaine ne pouvait se faire, une intégration, je dirais, dans la famille américaine ou latino-américaine ne pouvait passer que par un rapprochement avec Cuba. Et à partir du moment où le président Obama était en fin de son second mandat, qu'il n'y avait plus d'enjeu électoral majeur, que l'opinion publique américaine avait beaucoup évolué, les prises de position d'intellectuels américains demandant un rapprochement des relations entre les deux pays, en particulier les prises de position d'Hillary Clinton, entre autres, tout ça ont constitué qu'il y a une prise de conscience du président Obama qu'il devait sortir de l'isolement dans lequel il était, pour finalement établir ce rétablissement des relations diplomatiques qui n'est pas encore la levée de l'embargo. Ce sont deux choses différentes.
Bien sûr, on va discuter de tout ça. Alors, je souhaitais qu'on laisse un peu les parties géopolitiques à proprement parler pour la deuxième partie. Stéphane Dubitkowski, vous évoquiez le rôle de la Chine et de la Russie qui peut-être sont venus compenser aussi cette faiblesse survenue de l'économie vénézuélienne avec la chute des prix du pétrole qui a fait que l'aide apportée à Cuba ne pouvait plus être aussi importante que dit précédemment. Alors, la question de l'embargo, on y reviendra aussi un tout petit peu plus tard, étant donné qu'on a bien conscience qu'avec un congrès majoritairement républicain aujourd'hui à Washington, les choses vont être difficiles pour Barack Obama. En tout cas, moi, je me souviens qu'au moment de l'élection et de la campagne électorale pour l'élection de Barack Obama, on évoquait cette question de la possible levée de l'embargo sur Cuba. En tout cas, donc Cuba qui faisait partie, à défaut d'une priorité, en tout cas un dossier important. Sur le plan intérieur, Jeannette Abel, Stéphane Witkowski évoquait les visites des uns et des autres, le président chinois, Vladimir Poutine. Sans visite, un rôle important, c'est celui du pape à Rome. Quelques mots sur le rôle de l'Église dans ce qui s'est passé.
Le pape François, en fait, a relayé le rôle de la hiérarchie ecclésiastique cubaine, dirigée par le cardinal Ortega, qui, depuis quelques années, occupe une place très particulière, mais tout à fait décisive, dans le débat politique à Cuba. Alors, non seulement il y a des rapports entre cette hiérarchie catholique et le gouvernement, ça n'est pas récent, c'est ancien. Notamment, il n'y a pas longtemps qu'il est mort, le secrétaire de la conférence épiscopale qui s'appelait Carlos Manuel de Céspedes, qui est l'arrière-petit-fils d'un des grands libérateurs, d'un des grands participants à l'abolition de l'esclavage à Cuba et aux guerres pour l'indépendance. Et Carlos Manuel de Céspedes, c'était une personnalité exceptionnelle qui a permis aussi ce rapprochement. Et ce rapprochement s'est traduit par une chose, entre autres, bien sûr sur le plan diplomatique, sur aussi le plan du débat politique, parce qu'il y a eu une revue qui s'appelle Espacio Laical, Espace Laïque. Mmh. Et cette revue, publiée par l'archevêché de La Havane, a publié les comptes rendus des colloques, a organisé des colloques entre courants marxistes, non-marxistes, libertaires, catholiques, etc. Et c'est devenu la revue la plus intéressante et qui joue un rôle justement de relais entre l'Église et le gouvernement. Malheureusement, les responsables de cette revue ont été changés il y a quelques mois pour des raisons qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici.
Donc, importance du rôle de l'Église,
Stéphane Witkowski. L'Église qui est un véritable acteur crédible et un interlocuteur crédible des autorités cubaines. Et on peut évoquer le rôle des différents papes, depuis Jean-Paul II, qui a été décisif.
Cette visite en 1998.
A été absolument décisive, dans laquelle il avait annoncé, condamné d'une part l'embargo, il avait dit surtout que Cuba doit s'ouvrir au monde et le monde s'ouvrir à Cuba. Et il y a eu cette relation particulière qui a été tissée entre Jean-Paul II et Fidel Castro jusqu'à la mort du pape. Et ensuite, ça s'est poursuivi avec Benoît XVI. Benoît XVI a rencontré aussi Fidel Castro de retour du Mexique. Et évidemment, ça
s'est... Le pape François, d'origine.
Qui non seulement est argentin et latino-américain, qui connaît parfaitement bien les réalités locales, mais aussi il est jésuite.
Oui.
Et il ne faut pas oublier que Fidel Castro a été élevé par les jésuites. Et il y a une sorte de complicité, si on peut dire, entre le dialogue politique entre les dirigeants cubains et l'Église, qui est tout à fait intéressant à observer.
Il y a eu des... Pardon Stéphane, on sait maintenant qu'il y a eu des réunions au Vatican.
Exactement.
Des réunions encouragées, en tous les cas, par le pape François. Et au cours de ces réunions... négociations, discussions, etc., avant l'annonce de la reprise de la normalisation et des négociations. Mais les réunions ont lieu au Vatican même.
Alors, vous écoutez RFI, l'émission géopolitique. On a parlé du rôle de l'Église. J'aimerais qu'on parle de l'opposition et de la dissidence. On a l'impression de l'extérieur que sans doute, avec ce rôle entre l'Église catholique et les autorités cubaines, eh bien, que finalement, la grande perdante de ce qui se passe aujourd'hui à Cuba, c'est l'opposition. Est-ce qu'on peut parler d'une frange de la population sacrifiée, Jeannette Abel ?
Le problème de l'opposition à Cuba est assez compliqué et il faut oublier un peu les schémas traditionnels que l'on a pour aborder la question des dissidents de l'opposition, des schémas traditionnels qu'on applique à l'Europe de l'Est. Et la situation à Cuba n'est pas la même. Premièrement, cette dissidence existe, elle a existé, elle a été d'ailleurs plus ou moins forte selon les moments, elle a même à un moment donné entraîné une petite partie, on ne sait pas très bien, des chrétiens cubains, des catholiques cubains. Quelle importance, difficile de le dire, mais en tous les cas, autour de Osvaldo Paya, quelqu'un qui est décédé dans un accident de voiture, il y a eu un courant assez fort à un moment donné qui s'est appuyé sur un amendement de la Constitution pour réclamer un référendum, etc. Donc ce courant-là était, je dirais, représentatif d'un secteur de la société cubaine. Mais la Commission des droits de l'homme, etc., et ceux qui ont essayer de se battre sur ce terrain, premièrement, sont restés très minoritaires et ont toujours été portés par quelque chose qui les a beaucoup affaiblis et qui fait que, justement, ils n'ont pas été très reconnus. Une grande hésitation, voire pas d'hésitation du tout, sur la condamnation de l'embargo américain. Et ils se sont très peu situés sur le terrain de la défense de la souveraineté et de l'indépendance nationale, qui est une question clé à Cuba. Si on ne part pas de là, on ne comprend pas. Et alors, le paradoxe, c'est qu'on entend Obama maintenant dire que cette politique qui a été menée d'embargo, etc., pendant un demi-siècle, a échoué, alors qu'eux n'ont cessé quand même, pour une bonne partie, de l'appuyer. Donc c'est pour ça qu'ils sont pris à contre-pied maintenant par la démarche. Et comme vous le dites, ils ont été surpris d'abord. Et d'autre part, le discours d'Obama pour annoncer cette reprise des négociations, etc., les a effectivement surpris. Ils ne s'y attendaient pas parce qu'ils se sont, pas tous, mais pour une bonne partie, en tous les cas pendant longtemps, appuyés sur la partie la plus conservatrice de l'exil cubain, qui réclamait le renversement du régime, qui pensait que ce renversement du régime était possible avec l'appui américain. Or, ça, à Cuba, je pense qu'y compris aujourd'hui, il y a un sentiment très majoritaire, en tout cas majoritaire, la souveraineté, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Et je ne dis pas que c'est partagé par tout le monde, mais et cela... Sur ce terrain-là, ils ont été extrêmement faibles.
Alors, on s'en étonne, Jeannette Abel, parce qu'il y a quand même une culture extraordinaire dans la population cubaine et voire. Donc, finalement, ce que vous dites là, une opposition qui s'est trompée, c'est aussi le fruit d'un travail de sape des autorités cubaines. On est encore... Stéphane Witkowski.
C'est-à-dire que je pense que l'opposition ou les oppositions, parce qu'il y a plusieurs oppositions, oui. il y a plusieurs dissidences, si on peut dire, ont fait une erreur d'analyse politique. De même que Obama a reconnu qu'il y a eu un échec de l'analyse de la position des Américains après 50 ans de même politique. Ils ont reconnu officiellement que cette politique menée par les Américains vis-à-vis de Cuba a été un échec, ça a été une erreur. Et l'erreur majeure de beaucoup de dissidents, c'est qu'il n'y a pas une figure charismatique qui puisse incarner un projet alternatif crédible. Et ça a toujours été très frappant de constater qu'à Cuba, il n'y a pas de grande figure, il n'y a pas un grand Sakharov cubain, il n'y a pas un Solzhenitsyn cubain, il n'y a pas un Valesa cubain, etc. Pourquoi ? Parce que, je crois Jeannette le disait, beaucoup de Cubains ne comprennent pas pourquoi certains de ces dissidents sont totalement associés au projet nord-américain, aux sanctions nord-américaines. Et le jour où une personnalité, mais ça sera probablement trop tard, pourrait incarner effectivement un autre projet, devra être totalement séparé de cette section effectivement Fondation Cubano-Américaine qui est à Miami, qui a été pendant des années extrêmement dure par rapport au régime cubain, et on assiste malgré tout à une relève des générations, c'est-à-dire que le discours le plus dur cède à un discours beaucoup plus pragmatique, d'où justement les pressions économiques et les lobbies économiques américains dans certains milieux qui sont aux États-Unis font pression sur ces lobbies pour changer de pied par rapport à Cuba. Alors la grande difficulté surtout, je dirais, c'est que Fidel Castro est perçu pour beaucoup de Cubains non seulement comme l'incarnation de l'indépendance nationale vis-à-vis des États-Unis, mais parce qu'il s'est approprié d'une certaine façon le sentiment d'identité nationale dans le sillage de Martí, le père de l'indépendance nationale cubaine. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour des personnes qui analysent la situation à l'extérieur.
C'est finalement, pour vous résumer, un extraordinaire paradoxe.
Ah oui, tout à fait. Mais parce que on a assimilé la situation cubaine, notamment une partie des dissidents, mais pas seulement, une partie aussi des médias occidentaux et même de l'administration américaine, à la situation des pays de l'Est et de l'Union soviétique. Or, en Pologne, je dis la Pologne, mais en Europe centrale, mais en particulier en Pologne, entre guillemets, l'ennemi héréditaire, des guillemets, c'était l'Union soviétique, mais à Cuba, entre guillemets, l'ennemi ou l'adversaire traditionnel, celui qui est accusé de néocolonialisme, etc., ce sont les États-Unis. Et le fait qu'une partie de la dissidence, et je dirais la plus représentative d'une certaine façon, n'est pas suffisamment condamnée ou ne se soit pas dissociée de cette politique, les a décrédibilisés. Et à un moment donné, on a même vu une des dissidentes, une des dames en blanc qui défilait régulièrement le dimanche près d'une église à La Havane, invitée à l'ambassade, c'est à la section à la section d'intérêt américaine, puisque jusqu'à maintenant il n'y a pas d'ambassade, donc cet immense immeuble de 7 étages qui va se transformer en ambassade, aller être reçue en ambassade, écouter au garde à vous pratiquement un discours de George Bush. Et je peux vous assurer que ça, c'était sur toutes les télévisions à Cuba, diffusé partout, et ça suffisait. Il n'y avait même pas besoin de commentaires. Ça suffisait à les isoler complètement, même si sur certaines revendications, certaines étaient légitimes. Mais à partir de là, je crois qu'elles ont été très minoritaires.
Alors, pour terminer cette première partie de l'émission, il nous reste une minute 15 secondes. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de, non pas de résilience, mais en tout cas la voir cette opposition s'organiser à partir de maintenant ? Est-ce que on peut considérer que ce qui est en train de se passer peut constituer un nouveau départ, en tout cas qu'il y aura une volonté de réagir, Stéphane Witkowski ?
Je crois que ça sera difficile puisqu'il y a une nouvelle donne maintenant avec ce rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays et que l'opposition aura beaucoup de difficultés à trouver des marques, d'une part parce que on est en fin de cycle, si on peut dire, c'est-à-dire que l'épopée révolutionnaire avec les dirigeants historiques termine leur mandat. Raúl Castro termine son second quinquennat qui se terminera en 2018. Il y aura donc un successeur à partir de là, ça sera très difficile d'imaginer un scénario politique parfaitement différent du cas actuel, mais je dirais que tout est possible aussi. Il faut être très prudent dans les analyses que l'on fait vis-à-vis de Cuba, parce qu'à partir du moment où les dirigeants n'ont plus cette légitimité historique qui tient de la révolution de 59, une fois qu'ils ne seront plus là, tout sera possible à partir du moment, compte tenu de ce niveau d'instruction et d'intelligence politique du peuple cubain.
Vous écoutez Géopolitique. En cette fin de première partie, nous saluons nos auditeurs en Afrique qui nous quittent pour le football avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. À tous les autres, nous vous retrouvons dans quelques instants avec nos invités Jeannette Abel et Stéphane Witkowski. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, le dégel des relations entre les États-Unis et Cuba. Nous retrouvons nos invités, Jeannette Abel, politologue et spécialiste de Cuba et plus largement aussi de l'Amérique latine, et Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. J'aimerais qu'on parle un peu du rôle de Castro, qui a donc succédé à Fidel Castro il y a quelques années, dans ce qui est en train de se passer. Beaucoup de choses sont évoquées. Raúl Castro resté dans l'ombre du grand frère des décennies durant. Comment ce qu'il est en train de mettre en place peut-il se produire? Quels obstacles a-t-il levé dans l'appareil d'État? On le disait timide et effacé, ce qu'il est sûrement. L'évolution des choses révèle en tout cas une grande habileté politique, une prise de conscience de la nécessité de changer le cours des choses, car c'est changer finalement ou couler. Mais pour aller plus loin, qu'est-ce qui fait bouger vraiment Raúl Castro? Est-ce que c'est, Jeannette Abel, la crainte de survivre à son frère et de se trouver confronté à une demande à venir, mais proche du peuple cubain, qui pourrait réclamer un droit d'inventaire? Est-ce que tout ce qui se passe et qui va se passer peut se résumer à une volonté de tout faire pour éviter le grand déballage, qui pourrait être douloureux quand même pour les frères Castro?
Je ne sais pas si on va éviter plus tard le grand déballage, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a une chose que j'ai entendue lors de tous mes voyages et de mes discussions à Cuba, de la part des dirigeants cubains que j'avais l'occasion de rencontrer. Et je ne parle pas là de Fidel Castro ni de Raúl Castro. L'obsession, c'était le passage du témoin. Le problème clé, c'est, après nous, comment garantir au moins ce que nous avons conquis sur le plan social, mais en premier lieu l'indépendance nationale. Or, tous disaient, ça doit être fait du vivant de Fidel et du vivant de Raoul. Les changements étaient inévitables, en tout cas certains changements inévitables, ils en avaient parfaitement conscience. Et le premier raisonnement après, il y a d'autres choses, était le suivant. Nous ne pourrons pas faire ça une fois qu'ils ne seront plus là. Pour faire cela et changer ce qui doit être changé, il faut que ce soit eux qui le mettent en place. Parce que sinon, nous courons au-devant de grands dangers. Alors, les grands dangers ne sont pas écartés, mais les réformes économiques qui sont mises en place par Raúl Castro, et ça, je pense que Fidel Castro, que son aîné, n'y était pas très favorable. Donc, il fait preuve d'une certaine audace sur ce plan-là, mais il est confronté à une crise économique très sérieuse, très grave. Et la normalisation avec les États-Unis, ce sont les deux questions clés qui devaient être amorcées, qui devaient être mises en place par un des deux frères. Comme Fidel Castro est tombé malade, Raúl Castro a pris le relais.
Est-ce qu'il a été associé, Fidel Castro, à ce qui se passe?
Moi, j'ai aucun doute. D'abord, la stratégie, c'est la stratégie de Fidel Castro depuis le début. Si vous voulez, tout ce qui se passe là, y compris la normalisation, c'est quand même une victoire. Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? On a reconnu aux États-Unis que la politique mise en place était un échec, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et deuxièmement, les conditions qui étaient mises à la normalisation dans la loi Helms-Burton par l'administration américaine n'ont pas été respectées. C'est-à-dire que là, on renoue les négociations pour l'instant, mais les changements de système politique qui étaient exigés, les changements de direction. On disait qu'en tant qu'il y aura Raoul et tant qu'il y aura Fidel, disait la Fondation cubano-américaine, pas question de négocier. Tout ça s'est révélé caduque. Et donc, cette stratégie-là, Fidel Castro disait toujours, respect de l'indépendance, elle est mise en œuvre par son frère. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'originalité dans cette histoire, notamment sur les réformes économiques. Je ne pense pas que Fidel Castro en était un chaud partisan. Je pense même l'inverse, même si finalement il a dû s'y résoudre, vu la situation. Mais c'est à ça qu'on assiste, ce qui ne veut pas dire que Raúl Castro n'est pas sa personnalité propre. C'est quelqu'un d'un très bon administrateur, un très bon organisateur. Et il applique d'une certaine façon une partie des orientations que son frère aîné a toujours défendues publiquement. Et comme il est, je le disais, bien organisé et qu'il a aussi l'armée avec lui, eh bien, et également le ministère de l'Intérieur, n'oublions pas, il est évidemment en mesure de faire ce qui justement était exigé, de mettre en place maintenant ce qui devrait permettre peut-être la sauvegarde des conquêtes du pays ensuite.
Alors, Jeannette Abel parlait de l'armée, Stéphane Witkowski, du ministère de l'Intérieur. Tout le monde est mis au pas à Cuba sur cette évolution des choses?
Non, et je dirais qu'il n'y a pas une mise au pas. pas, on peut dire que l'armée joue un rôle essentiel dans l'économie cubaine. Pour répondre à votre question sur les relations entre Fidel Castro et Raúl Castro, rien n'aurait été possible sans l'accord de Fidel Castro, c'est absolument évident. Et ce rapprochement cubano-américain, c'était le vœu de Fidel Castro depuis le début de la Révolution. Il souhaitait que Cuba et les États-Unis aient des relations d'égal à égal. Et Raúl Castro l'a toujours dit, tout est négociable sauf la souveraineté. Alors Raúl Castro a un tempérament un peu différent, il est pragmatique, il est prudent, il est méthodique. Tout est parfaitement calculé, préparé, non seulement depuis 2 ans, mais depuis bien plus longtemps. Je me souviens d'avoir rencontré Fidel Castro avec des chefs d'entreprise français qui nous disaient tout à fait en privé, « Je sais très bien que les Américains vont revenir à Cuba ». Mais je souhaite que ce retour des hommes d'affaires américains à Cuba soit contrebalancé par des prises de position acquises par d'autres pays, notamment brésiliens, latino-américains, européens et asiatiques, pour retomber dans la situation d'avant 59 et simplement d'avoir un partenariat absolu. Alors ce qui est absolument incroyable, c'est que dans ce rapprochement cubano-américain, et Jeannette Abel l'évoquait, il n'y a pas eu de concession majeure en tant que telle, comme on les demande souvent, par exemple, pour des levées de sanctions vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Iran, où on demandait des conditions particulières. Dans le cas de Cuba, absolument pas. Ils sont absolument victorieux sur toute la ligne. Et c'est un succès, je crois, de la diplomatie cubaine qui est à l'œuvre depuis de très nombreuses années.
Alors, pour ce qui est des sanctions, on va parler de l'embargo. Jeannette Abel, les États-Unis à Washington, ça va être difficile de lever l'embargo avec un congrès, comme je le disais tout à l'heure, aux mains des républicains.
Oui, je pense qu'il faut nuancer quand même un peu. Pourquoi ? Parce que, par exemple, là, tout de suite, une coalition de 30 entreprises, dont des grandes multinationales, viennent de créer un regroupement, donc une coalition d'entreprises, visant à faire en sorte que l'embargo soit levé. Et protestant contre le fait que ce sont les autres pays, le Brésil, l'Espagne, le Canada, l'Argentine, etc., qui, dans l'agro-business, sont en train de profiter du marché cubain, de s'y implanter, alors que, eux, les Américains, à cause de l'embargo, ne peuvent pas. Ces gens-là, ces entreprises, sont liées au Parti républicain en premier lieu. Donc, pour le Parti républicain, pour la majorité républicaine, ça ne va pas être homogène. Ceci dit, Jeb Bush, qui va être probablement candidat pour le républicain à la prochaine présidentielle, s'est déclaré favorable. Et alors, il était gouverneur de Floride, c'est le frère de l'ancien, s'est déclaré favorable au maintien de l'embargo. Et alors, sur le plan légal, il faut dire les choses de manière précise. Il y a une loi qui a été votée par le Congrès américain. En tant que telle, elle ne peut pas être abrogée par Obama, par le président. Mais par contre, il a des prérogatives en termes d'ordre exécutif qui lui permettent de prendre une série de décisions et donc de démanteler partiellement cet embargo. Alors, c'est ce que me disait...
C'est vider de sa substance, voilà, finalement, cet embargo.
Alors, pas totalement, mais sur quand même des sujets très importants. Un ancien ambassadeur cubain me disait justement que, par exemple, la loi sur les pieds secs, pieds mouillés, ce qu'on évoquait, donc le problème des migrations, le problème des voyages, le rétablissement du courrier postal, il n'y a pas de courrier postal entre les États-Unis et Cuba, le problème d'Internet. Et il me disait là une chose intéressante. Il m'a dit, il faut qu'on puisse maintenant... Les gens vont vouloir communiquer. C'est pas possible que nous restions dans la situation actuelle. Donc, il faut avoir un accès à Internet des deux côtés. Ça va changer beaucoup de choses. Et les changements sont d'ailleurs en partie imprévisibles. Il disait, Obama aussi, la possibilité de faire en sorte qu'il y ait des crédits accordés à Cuba à l'importation, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc, il a quand même des marges de manœuvre. Alors, on disait Cuba sur la liste des États terroristes. Et puis, il y a toute la négociation qui va porter sur les nationalisations, etc. Il y a 6000 plaintes déposées de la part des Cubano-Américains en Floride. En tous les cas, il a des marges de manœuvre.
Plaintes sur des propriétés sur qui ont propriétés. Été nationalisées
oui,
au moment de...
sans indemnité.
Indemnité. Oui. Et les Américains sont les seuls à ne pas avoir été indemnisés.
Voilà. Alors, la position cubaine est extrêmement claire. La position cubaine, c'est nous sommes d'accord pour discuter de l'indemnisation des propriétés nord-américaines. Mmh. Nous ne négocierons pas l'indemnisation des propriétés cubaines. Parce que les Cubains qui sont partis parce qu'ils le voulaient bien. Et la prérogative du gouvernement cubain, comme de tout gouvernement dans le monde, c'est de nationaliser les entreprises s'ils le décident ainsi. Voilà. Donc ça, c'est promet d'être effectivement un peu compliqué, mais ça permet quand même beaucoup de choses. Et il est vraisemblable que Obama, pour redorer son blason, alors il va le faire progressivement, mais je pense qu'il y a une série de décisions qui vont être mises en œuvre. D'ailleurs, sur les voyages, sur les crédits, etc. Sous Carter, c'était déjà, il y avait eu déjà des progrès qui avaient été mis en œuvre, appliqués à ce moment-là.
Vous écoutez RFI.
Alors, d'aucuns évoquent le grand retour des États-Unis en Amérique latine, mais avant cela, et avant de vous poser de la question de savoir si c'est effectivement le cas, la question de Cuba sur la liste des pays terroristes, Stéphane Witkowski, ce qu'on a remarqué, c'est que dans la foulée de l'annonce de ce début de réconciliation entre Cuba et les États-Unis, les FARC en Colombie annonçaient un cessez-le-feu unilatéral et illimité. Ce que l'on sait, c'est que les FARC prenaient leur ordre à La Havane, hein, traditionnellement. Là aussi, c'est un grand jeu qui va se mettre en place en Amérique latine.
Cuba, sur la liste des pays terroristes, est absolument grotesque. Je crois que là, absolument, tous les observateurs internationaux le disent, Cuba a toujours été très associé à, et en particulier dans un certain nombre de situations, il y a eu une coopération policière entre les Américains et les Cubains.
Enfin, le lien,
De même que Mandela était considéré comme terroriste jusqu'en 2008. Et donc, ça prouve à quel point cette liste n'a aucun sens. C'est d'autant plus absurde que vous évoquiez les FARC. Vous imaginez bien que le fait que Cuba ait été choisi pour être un pays neutre, si on peut dire, pour trouver un compromis, en tout cas un accord sur le problème colombien qui existe depuis 50 ans. Mmh. Enfin, c'est quand même 200 000 morts. Et trop souvent dans le passé, on accusait Cuba d'être très partie prenante de ces conflits, de ces insurrections révolutionnaires dans le monde. Donc, ils sont actuellement en terrain neutre et ils sont en train de conduire les négociations pour parvenir à un accord.
Mais alors, quelle lecture faire rapidement de cette annonce faite par les FARC, donc de cesser le feu unilatéral et illimité dans la foulée de ce qui s'est passé? Il y a bien un lien, Stéphane Witkowski?
Mais parce que ça fait partie d'une réintégration de Cuba dans l'ensemble de la famille latino-américaine, et c'est la raison pour laquelle Obama a considéré que par toutes les portes d'entrée, si je puis dire, des États-Unis dans la politique d'Obama vis-à-vis de l'Amérique latine, devait passer par Cuba, et en particulier la Colombie, qui est un pays essentiel pour la stratégie politique, mais aussi militaire des États-Unis dans la région. Donc je crois que ça, c'est un point tout à fait essentiel. Et je pense que cet accord permettra aussi aux autorités colombiennes de gagner 1 ou 2% de points de croissance, si vous voulez, consécutifs à ces accords.
En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir le rôle des uns et des autres et des voisins de Cuba dans ce nouveau mouvement. On évoquait la Colombie à l'instant. Il y a aussi le Brésil, avec les Brésiliens qui sont en train de construire un très important port, en tout cas de le rénover pour l'agrandir, c'est le fameux port de Mariel, pour en faire un port géant tourné vers les États-Unis avec 800 millions de dollars investis par Brasilia. On a évoqué tout à l'heure le sommet des Amériques à Panama en avril, et j'en reviens à ma question de tout à l'heure, Jeannette Abel, grand retour des États-Unis en Amérique latine?
Oui, oui et non, parce que, oui, grand retour, bien sûr, là, il prenait le risque, s'il n'avait pas pris l'initiative qu'il a prise à l'égard de Cuba, de se retrouver devant des chaises vides à Panama au mois d'avril. De très nombreux pays, et non des moindres, avaient annoncé qu'ils ne seraient pas présents si Cuba était absent. Donc, c'était une claque monumentale pour Washington. Là, l'initiative qu'il a prise lui permet justement de ne pas se retrouver dans cette situation. Raúl Castro sera au Panama. Il est vraisemblable, pas certain, que Obama y sera aussi, mais enfin ça on ne le sait pas encore. Et donc il sauve la face Mais de là à conclure que c'est un grand retour, je n'irai pas tout à fait jusque-là, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Amérique latine a joué un rôle déterminant dans ce qui est en train de se passer. Et là, c'est aussi la stratégie cubaine qui a payé, parce que c'est une stratégie d'intégration latino-américaine et une stratégie de rapprochement avec tous les gouvernements latino-américains pour changer le rapport de force. Cuba est un petit pays sans beaucoup de richesses, en plus, c'est même pas le Venezuela. Et le fait de jouer cette carte latino-américaine a permis de changer, en tout cas sur ce terrain, les rapports de force avec les États-Unis. Donc c'est, je dirais... C'est un changement pour l'Amérique latine. Le Brésil joue la même carte. Ils ont multiplié par 4 leurs exportations depuis quelques années à Cuba. Donc il faut bien comprendre qu'il y a maintenant... L'hégémonie nord-américaine est importante. Je ne crois pas qu'elle soit terminée. Je pense même que la politique qu'ils vont mettre en œuvre avec Cuba maintenant, soft power, comme on dit, hein, ils vont jouer davantage sur le poids des voyages, le poids des investissements, l'aspiration à la société de consommation d'une partie de la jeunesse, les frustrations de certains secteurs de la société cubaine, etc. Ça, il va y avoir de grandes différenciations en plus. Hein, ça va être compliqué. Ils pensent que ça va être plus efficace comme stratégie que ce qu'il y a eu auparavant, certes, mais quand même, il y a un changement et je ne crois pas qu'il soit conjoncturel dans toute la
Alors, je crois Obama s'est rendu compte, il avait d'abord lancé une stratégie asiatique pour essayer de contenir l'influence de la Chine. Et puis il s'est rendu compte que cette stratégie ne portait pas tous ses fruits. Donc il a réalisé qu'il fallait non pas faire un retour sur le continent américain. D'ailleurs, John Kerry avait dit qu'il n'allait pas reprendre la doctrine Monroe, mais simplement, il veut sauver les meubles, tout simplement, pour ne pas que les États-Unis soient exclus de la famille américaine. Et dans son fameux discours du 17 décembre, il a dit « Somos todos americanos ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. « Je suis aussi de la famille américaine ». De l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. C'est ça qu'il voulait dire.
Alors, donc, finalement, pour vous résumer, à défaut de parler de grand retour des États-Unis d'Amérique latine, il n'empêche que cette réconciliation avec Cuba, c'est, pour se résumer, aussi une réconciliation avec l'ensemble de l'Amérique latine,
bien sûr,
avec les États-Unis.
Oui, également. Je ne dis pas du tout que c'est négligeable. Je pense que là, c'est une politique plus intelligente. Et d'autre part, il sauve un peu sa propre présidence en faisant cela. Mais il y a un changement important, c'est que l'hégémonie ancienne, totale, absolue, politique, militaire, a été quand même battue en brèche. Et la victoire cubaine, cette victoire diplomatique en tous les cas, elle sanctionne ça, elle résume cela. On n'est plus dans la situation qu'on avait connu au XXe siècle.
Pour Obama, c'est une fenêtre de tir politique assez exceptionnelle parce qu'il termine son mandat. Il peut entrer dans l'histoire, si on peut dire, à moindre frais d'un point de vue électoral, qu'il y a des lobbies économiques qui sont actifs. L'opinion publique a évolué aussi nord-américaine vis-à-vis de la stratégie vis-à-vis de Cuba. Et donc, je dirais, c'est tout bénéfice pour lui. Lui-même, étant né en 61, n'ayant pas connu, comme ses prédécesseurs, de ces contentieux particuliers, il est né après donc l'affrontement de la Révolution, n'a pas connu les contentieux que ses prédécesseurs avec Fidel Castro. Il n'avait pas de raison de se priver d'un succès politique et diplomatique en termes de communication et en termes d'image.
Alors, si Obama va rentrer dans l'histoire, Jeannette Abel, il est évident que Raoul Castro aussi, comme faiseur de paix, point d'interrogation ?
Oui, bien sûr. Mais je pense qu'en Amérique latine, c'est d'abord Fidel Castro qui
restera dans l'histoire.
Même si il y aura peut-être des bilans à tirer par la suite, surtout sur le plan de sa conception démocratique, parce que c'est quand même un grand stratège militaire, un grand stratège politique. Il est moins évident qu'il ait une conception d'ouverture démocratique pour la population. Mais ça, ce sont les Cubains eux-mêmes qui se prononceront sur le sujet.
Très rapidement, Stéphane
Kuskowski. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas Fidel Castro, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de dirigeants dans le monde qui soient capables de tenir depuis plus de 50 ans à l'Empire, à résister à 11 présidents nord-américains, à avoir survécu à la disparition de l'Union soviétique, à toutes les tentatives de déstabilisation, et d'avoir réussi à obtenir que les Américains reconnaissent leur erreur et que finalement, ils souhaitaient ce qu'ils demandaient, la levée de l'embargo. Qui dit mieux ?
Oui,
merci.
Tout à fait.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Jeannette Abel, politologue et spécialiste de Cuba et de l'Amérique latine, et Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ou si votre connexion est difficile, sur m.rfi.fr. Également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À la semaine prochaine.